l'on peut avec un bout de terrain manger un peu.
Et les lapins, les poules, la chasse, la pêche, le lait des vaches, le cochon. On arrive tout de même à se débrouiller. En ville, il n'y a que les rats, les chiens, les chats et les commerçants qui en profitent. Et puis en vivant dans la famille, on ne paye pas le loyer. Et parce que l'on a, c'est bien, parce qu'on n'a pas de travail. Donc les gens qui ont la possibilité de pouvoir vivre à la campagne le font.
Le trajet se fait à petite vitesse. Il fait très chaud et l'on transpire. On a en plus faim et soif. Des bouteilles d'eau et de bière ont vite été bues. Il ne reste plus qu'à attendre les arrêts qui se font des fois, par chance, et pas toujours, vers un coin d'eau, fontaine ou autre. Alors, l'on sort du wagon et on se rue avec une bouteille en plastique pour la remplir. La mer est heureuse. Tous ces émerveillements ne sont rien à côté de ce qui les attend. C'est une vie. C'est comme si elle allait prendre des vacances dans un hôtel 3 étoiles. Le père, lui, ne dit rien. Il se demande s'il ne va pas trouver à boire. Quelquefois, ces gens sont anti-alcooliques. La fille est sûre de rencontrer son prince. Lui, le garçon, se dit qu'il trouvera bien quelque chose pour se remplir les poches. Il se dit que sa mère est bizarre. Elle, la plus sérieuse, la plus réaliste, lancer sa famille dans une histoire pareille. Les femmes ne seront jamais que des rêveuses. C'est pour cela qu'il est facile de les plumer. S'est arrêté à Lyon, gare de Perrache. Entre encore des voyageurs supplémentaires. Un petit homme, tout maigre, à cheveux blancs, habillé avec un costume trop large et gris, taché et poussiéreux. Il a une chemise qui a été blanche et une énorme cravate des années 70 très large. Pas très propre non plus. Il porte à la main un vieux sac plastique Fnac tout pourri. Le petit homme s'assoit en face de la mère, qui fait la grimace car l'homme sent mauvais. L'homme bouge constamment la tête de gauche à droite et fait des A, des O, des I comme ça. Il regarde le fils de la mère et lui dit: « Bonjour, je m'appelle Pierre Max. » Le jeune le regarde surpris et lui dit « Hervé ». Pierre Max lui dit « Je prends le train parce que je veux voir ce que c'est que cette histoire d'association de vie meilleure, bio. Je suis sûr que c'est une secte. C'est pour ça que j'y vais. » La mère lui dit « Moi aussi, nous y allons. Je crois que ça va être merveilleux, la vie là-bas. » Pierre Max lui dit « Moi, je n'y crois pas à tout ça. C'est louche. » Elle lui demande. « Eh bien, pourquoi vous y allez ?»« Parce que je veux voir et parler à mon émission. Car je fais une émission sur Radio C, à l'écoute du monde, vendredi à 12h15. Je reçois des invités du monde entier et je parle de tout. Mais j'y vais aussi, c'est parce qu'il paraît qu'on va manger. Et moi, je veux manger. » Et pas que c'est de ces trucs bio, parce que moi, je me méfie. Mais il paraît que c'est très bon. J'en ai mangé un petit peu à la soirée qu'ils ont fait le mois dernier. C'était exquis. Et Pierre-Max continue à parler durant tout le trajet.
Enfin, ils arrivent à la dernière gare, une petite gare de campagne. Sortant du train, avec la foule et de la gare, Pierre-Max les suit. Il continue à parler seul. À la sortie de la gare, sur la place, il y a des arrêts de car. Le père va voir quel car il faut prendre. Puis, il va prendre sa famille. Pierre-Max les suit. Ils entrent dans le car, qui est un vieux car qui a été remis en service par manque de transport. Pierre-Max est assis dans le car à côté d'eux et continue à parler. La famille est fourbue. Pierre-Max leur dit « Je chante aussi dans une chorale. » La famille est tellement fatiguée qu'elle ne fait plus attention à lui. Après 4 heures de route de campagne, à 40, 35 ou 20 à l'heure suivant l'état des routes, le trajet était plus pénible que le train, car il n'y a pas eu d'arrêt pour prendre de l'eau et il faisait très chaud. Le car s'est arrêté sur une route de campagne. Le chauffeur leur dit « Vous suivez le chemin, là. Vous en avez pour une heure. Mais c'est bien isolé. On peut vous égorger, personne ne le saura. Allez, bonne chance. » Et le car est reparti. Pierre-Max leur dit « Mince alors !» Une heure de marche, Si j'avais su, dans mon petit village, je fais du vélo ou du stop. Ils auraient pu venir nous chercher, c'est ce que je vais leur dire. Et ils se mettent en route, épuisés. Le soleil commence à coucher. Le père dit, tout droit, qu'il a dit. Il commence à regretter tout ça. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce désert ? Après une heure de marche épuisante en pleine nuit, Pierre-Max a peur la nuit. Ils arrivent devant une grande bâtisse entourée de murs qui semble être un couvent. Il est écrit dessus, sur une grande pancarte en bois, Association Vie Meilleure Bio. Le père appuie sur la sonnette. La porte s'est entr'ouverte. Un grand homme fort, à cheveux et barbe châtain, blouse blanche, leur demande. Oui, qu'est-ce que c'est ?
Nous sommes les nouveaux pensionnaires.
On ne dit pas pensionnaires, mais membres fraternels.
Ah oui,
votre nom, la famille.
Famille Gazil.
Attendez, je vais voir.
Le père se demande, il serait pas temps de s'enfuir.
L'homme revient et leur dit, « Bien, vous pouvez entrer. » Il ouvre le lourd portail.
Un grand hall avec des pierres au sol et au mur.
L'homme leur dit, venez, nous allons au bureau des inscriptions.
Il mène tout le monde. Entrez. C'est une pièce, comme une salle d'attente, avec des tables et chaises en rodin. Attendez ici. L'homme va frapper à une porte et entre. Puis il ressort. Entrez. Ils entrent. La famille et Pierre-Max aussi.
C'est un grand bureau, pièce immense, genre bureau de supérieur de collège privé de curé, avec des meubles en bois massif. Est assis à son bureau un homme en blouse blanche avec un badge pour faire sérieux et bien. L'homme est un homme grand, mince, avec des cheveux blancs et des lunettes en métal doré. Il leur dit, je suis le supérieur de cet établissement. Je m'appelle Grand-Duc de Sainte-Garde. Et si... Et vous allez me donner vos papiers d'identité pour que je puisse vous inscrire. La famille s'exécute.
L'homme regarde Pierre-Max qui lui dit « J'ai pas de carte d'identité parce que c'est pas obligatoire, mais j'ai ma carte de Radio C. »
Le Sainte-Garde le regarde bien et lui dit «
Quelle est... Qui êtes-vous ?
Je suis Pierre-Max Roussillon de Radio C. L'homme regarde sa feuille.
Vous n'êtes pas sur mes arrivants. Vous n'avez pas été là, monsieur.
Mais je suis Pierre-Max et je suis là parce que je le veux. J'en ai marre que personne ne me veuille. Je suis ici, je reste. Je veux savoir ce qui se passe ici. Pour savoir si c'est pas une secte. Ça me paraît louche tout ça.
Le Sainte-Garde le regarde bien et lui dit
« Bon, ça va, mais tenez-vous tranquille. Je fais ce que je veux, comme je veux. »
Le Sainte-Garde leur dit
« Je garde vos cartes d'identité, vous n'en avez plus besoin. »
Pierre-Max lui dit
« Ce n'est pas légal. »
Le Sainte-Garde lui dit
« Taisez-vous.
Je dirai ce que j'ai envie de dire. »
« Bien, reprenons. Soyez les bienvenus dans cette maison. » qui est désormais la vôtre. Nous allons vous donner des chambres pour que vous puissiez vous reposer de ce très long voyage.
Il sort de son cahier des cartons et leur dit
« Voici les numéros de vos chambres. »
Pierre-Max regarde le sien et dit
« Je ne veux pas celle-là.
Et pourquoi ?»
Parce que c'est le chiffre 13 et que ça porte malheur.
Bon, ce sera le 13.
Non, je ne veux pas. C'est mon droit.
Le Sainte-Garde soupire et lui donne un autre numéro.
Tenez. Vous êtes un corps, vous.
Je suis comme je suis et je ferai ce que je voudrais.
Le Sainte-Garde prend son téléphone pour faire un numéro.
Les nouveaux sont là. Venez les chercher. Bien. On va vous mener dans vos chambres.
On frappe à la porte.
Entrez.
Entre un petit homme tout maigre en blouse blanche.
Je viens prendre les nouveaux. Veuillez me suivre.
Et ils sortent du bureau. Il leur fait longer un long couloir. Sortir de l'enceinte où ils sont.
Pour suivre un préau ouvert qui longe un jardin avec fontaine et aller dans une autre construction plus rustique au fin fond d'un champ. La construction est plus rustique et plus grande. Il les fait rentrer. Petit couloir, les fait monter des escaliers de pierre. Au troisième étage longe un couloir qui a un grand nombre de portes comme dans un couvent, portes en bois de cellules. Chaque porte a un numéro.
Au numéro 15, l'homme dit
« Qui a le 15 ?»
Le père dit
« C'est moi. »
L'homme ouvre la porte et dit
« Entrez, c'est chez vous. »
Le père entre. C'est une cellule de moine avec un lit à une place, table, petite armoire et rien d'autre. Pour la 14, c'est la même chose. C'est pour la mère. Pour la 13, c'est pour la fille. Pour la 12, c'est pour Pierre-Max. Qui dit,
c'est petit,
Ça n'a pas de chauffage.
Le petit homme lui dit, c'est comme ça. Bonne nuit, levez à 6h. Pierre Machu dit, je suis un artiste. Je me lève à 11h30, moi. Le petit homme le quitte. La mère est surprise et déçue. Elle s'attendait à une belle chambre, mais elle s'endort épuisée. Elle est réveillée par des bruits de cloche. Des coups dans la porte. C'est l'heure! C'est l'heure! C'est l'heure! Elle regarde sa montre. 5h30. Ça la surprend et attend. On frappe à la porte. Entrez. C'est le petit homme tout maigre qui lui dit « Douche, venez, sans serviette, on a !»
Surprise, elle se lève. Il sort.
Il la laisse. Elle est derrière une file de gens. Lorsqu'elle est à son tour, elle entre dans une cabine avec une vieille.
Des planches, un jet qui vient du haut. Un savon, un porte-savon, savon de Marseille. Surprise, elle se douche. Elle ne trouve plus ses vêtements.
Prenez cette chemise blanche.
Elle la met.
Vous allez, vous et votre famille, passer à la visite.
La famille et Pierre Max suivent un long couloir.
Entrez. Asseyez-vous. Il va s'asseoir dans une salle d'attente. Puis, une femme habillée en infirmière vient vers eux.
Les fait pisser, les pèse. Radio, les mesures, puis un secrétaire leur pose des questions sur leur maladie. Pierre Mache n'est pas arrivé à pisser, elle n'a pas voulu se déshabiller en entier, mais a voulu être près du fils. Ensuite, ils sont passés devant un médecin qui leur a dit
« Toutes les semaines, visite médicale et prise de sang pour voir si vous supportez le régime bio. Et une fois par semaine, test psychologique. Bon, vous êtes bon. »
Ensuite, on les mène chez le chef instructeur pour savoir quelle profession ils peuvent faire.
Entrez.
C'est un homme dans les 30 ans, grand, mince, blond, visage sympathique, blouse blanche. Son bureau est un grand bureau genre PDG. Les meubles sont modernes en acajou, marron clair. La femme surprise lui dit
« Mais d'après ce qu'on m'avait dit, sur le papier, nous ne devions pas travailler. »
« Bien sûr, on ne travaille pas durant le dimanche et les jours de fête. Mais les autres jours, il faut bien travailler. Comment voulez-vous que la communauté puisse vivre ? D'ailleurs, votre façon de penser démontre un côté primaire. Je vais être obligé, c'est de vous trouver un travail. » Il doit être en harmonie avec vos capacités. Vous, votre côté rêveuse, un peu simple, vous serez dans le service, c'est-à-dire femme de service, pour nettoyer, ramasser, servir les repas, faire le linge, etc. De 5h du matin à 21h. Le repos, c'est le dimanche. Vous aurez une demi-journée.
Elle lui dit, mais de 5h à 21h, cela fait 16 heures par jour. C'est énorme.
Il lui répond, non, parce qu'il y a beaucoup de pauses entre les travaux obligatoires, comme le ménage, le linge et la cantine. Vous attendez dans votre chambre que l'on vous sonne pour vous demander quelque chose. Mais comme une femme de ménage, quoi. Et là, en attendant, vous pouvez vous reposer, elle lui dit.
Le travail obligatoire, c'est combien d'heures par jour?
Entre le ménage, le linge et la cantine, cela doit vous faire au moins 12 à 14 heures. Comme vous voyez, vous avez le temps de vous reposer.
Ce qui fait que je suis une bonne, quoi.
Non, vous êtes une associée qui aide ses condisciples.
Et le salaire?
Mais il n'y a pas de salaire. Ici, tout est gratuit. Vous mangez, dormez gratuitement, et il faudrait en plus vous payer pour ça.
Vos idées sont trop de ce siècle.
Il faudra, en plus de votre travail, le dimanche après-midi, prendre un stage de sociabilisation. Vous avez trop vécu en vous-même et été assisté. Vous avez pris de mauvaises habitudes. Et nous allons vous faire sortir de ses habitudes et faire en sorte que vous changiez. Voilà, vous pouvez disposer.
Elle sort du bureau.
Le mari sera au jardinage. Il aide à planter des cultures et à les soigner. Ce sont des légumes et des fruits bio,
à qui l'on a implanté un ADN pour leur donner une qualité que la nature ne leur a pas donnée. Par exemple, pour les faire pousser plus vite, plus grosses, plus fermes, pour qu'elles aient toutes les mêmes couleurs, calibres, pour qu'elles aient besoin de moins d'eau, de terre. On peut même faire pousser des produits dans l'air, sans terre. L'on peut même faire en sorte à ce que le légume, grâce toujours à l'ADN, puisse produire lui-même son insecticide ou contre ses maladies. L'on peut même faire en sorte à ce qu'il produise des vitamines, etc., etc. Donc, ces produits bio, il faut les planter ou les accrocher. Suivre leur développement, qu'ils soient à la bonne température, lumière. Ces produits seront vendus dans des grandes surfaces pour alimentation. D'autres, à cause de leur spécificité à produire certaines substances chimiques, iront dans des laboratoires pour faire des médicaments ou produits chimiques ménagers. Et le reste, des fruits, légumes, les moins sûrs, iront dans la cantine de l'association. Le fils, lui, a été choisi pour aider pour les soins des bestiaux. Les nourrir, les garder dans un environnement propre, c'est-à-dire changer leur litière. Les soigner et les mener à l'abattoir. Ces bêtes aussi ont été transformées grâce à l'ADN pour qu'elles soient mieux calibrées, qu'elles produisent de la meilleure viande et dans des parties les meilleures. Ce qui les change physiquement, cela leur donne des grosseurs dans certaines parties du corps. Qu'elle aussi ait une bonne peau, un bon cuir, fourrure, laine, plumage pour les produits dérivés, genre sac pour le cuir, etc., etc. Elles doivent aussi produire plus de lait, œufs, produits de matières chimiques pour les médicaments. Ce qui fait que l'animal est devenu une véritable machine à produire. À lui tout seul, c'est mieux qu'une machine, car une machine produit qu'une seule chose à la fois. Une fois morte, elle est bonne à être jetée. Tandis que l'animal, lui, mort, apporte sa viande, sa peau, etc. On fait en sorte à ce qu'il mange moins, grossisse plus vite, etc. Le fils changera les litières toute la journée, de 5h à 21h. Lapin, vache, mouton, cochon, etc. Lui qui n'a jamais travaillé, il va connaître l'enfer. Adieu les vieilles milliardaires à séduire. C'est fini maintenant. La fille sera dans un laboratoire à préparer les produits que l'on injecte chez les animaux pour transformer leur ADN ou leur donner des informations. Pour cela, elle introduira un produit chimique avec une seringue. Elle fera ce travail chaque jour de 5h à 21h. Et pour ce qui est de Pierre Max, il n'est pas du tout question que je me lève à 5h du matin. Je suis un artiste. Et puis, j'ai ma chorale le jeudi et le vendredi mon émission. Le vendredi après-midi jusqu'à mardi matin, je suis dans mon petit village. J'ai à aller à la messe aussi parce que je vais bientôt être diacre.
Et puis, j'ai mes interviews. Le jeudi à midi, je mange à la cantine de FR3. Le soir, je vais souvent voir des spectacles. Que vous voyez, je suis très pris. Et puis, j'ai jamais travaillé. Alors, je ne pouvais pas commencer maintenant. Je suis, comme on dit, un enfant gâté.
L'homme lui demande, « Alors, qu'êtes-vous venu faire ici ?»
Pierre Max lui répond, « Parce que votre histoire me paraît louche. Pour moi, vous êtes une secte. »
Si nous sommes une secte, qu'êtes-vous venu faire ici?
Parce que l'on mange bien. Mais je me méfie, moi, de vos produits qui ne sont pas naturels. Hein?
Et il ferme un œil pour montrer qu'il n'est pas dupe.
L'homme lui dit, pour vous prouver que ce que nous vous offrons est de bonne qualité, vous travaillerez à la boulangerie à partir de 4 heures du matin. Sûrement pas. Vous avez dit sur les papiers que l'on ne travaillerait pas. Je ne travaillerai pas. Autrement, c'est de la publicité mensongère. Et j'en parlerai à mon émission à l'écoute du monde. Là.
Bon, ça va, faites ce que vous voulez. Mais ne gênez pas les autres.
Je fais ce que je veux. Et si je veux gêner, je le fais. Là.
Bon, ça va, disposez.
Dimanche après-midi, comme c'est congé, visite médicale complète avec prise de sang. C'est pour voir si ce qu'on leur donne à manger, les travaux qu'ils font ne sont pas nuisifs et en même temps on leur injecte des produits chimiques pour voir si les produits pour les médicaments fabriqués par les bêtes sont efficaces.
Ce qui fait qu'il y a de drôles d'épidémies et que l'hôpital interne est bien rempli. Épidémie de maladies connues et des fois inconnues. Après examen, la personne, des fois, est, disons, supprimée pour pouvoir lui faire une autopsie.
Bon. Ça va être, madame. Je peux fermer.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.